Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, 21 janvier. Heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui pour discuter, parler de hockey sur ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, à l'émission, on va parler de ce qui se passe chez les Canadiens. Victoire importante hier contre le Wild du Minnesota. On va parler de tout ça. Semaine importante aussi. Plusieurs questions aussi qui commencent à se poser chez les Canadiens au niveau de l'effectif avec le retour de plusieurs joueurs en santé. Donc, on va parler de tout ça. On va regarder un petit peu ce qui se passe aussi à travers la Ligue nationale de hockey, en particulier deux clubs qui ont lancé la serviette officiellement, les Rangers et les Canucks. Donc, on va parler à quoi ça pourrait ressembler, les reconstructions de ce côté. Si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, ben sachez qu'en audio, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute à peu près qui peuvent exister. Faites une recherche, la tasse de café. LNH, vous allez nous trouver. Si vous voulez nous voir sur vidéo, dorénavant, pour les prochaines semaines, on devrait seulement être disponible sur le site de la LNH, donc LNH.com. Donc, ça devrait être ça pour les prochaines semaines. On lance l'émission. Je les accueille avec moi, Jean-François Chaumont. Salut, JF.
Bonjour, Nick. Mercredi.
Bon mercredi. Et Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, les gars.
Les gars, hier, les Canadiens se font monter un petit peu, on crée l'égalité et je parlais avec des amis que j'ai et j'ai dit, de toute façon, c'est les Canadiens, faut que tu te fasses remonter, faut que tu aies un match à égalité ou tirer de l'arrière pour signer une autre victoire consécutive à la Cole Caulfield. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. On y prend un goût chez les Canadiens, on y prend un goût chez Cole Caulfield, monsieur prolongation. Mais dans son cas, hier, on a fait ça alors qu'il restait 15 secondes à faire au match. Encore une fois, le caractère du tricolore qui a paru hier dans cette rencontre-là.
Ouais, mais moi, j'ai aimé les propos de Cole Caulfield après le match, qui disait qu'en troisième période, il parlait à Lane Hudson au banc des siens, puis qu'il a mentionné c'est peut-être le karma qui vient nous hanter, parce que du côté d'Ottawa, le CH ne méritait pas une victoire. Ils ont finalement gagné 6-5 en prolongation. Hier, face au Wild, c'était l'histoire inverse. Le tricolore a dominé le Wild, autant au chapitre des tirs tentés, possession de rondelles. Ce match-là devait être en poche, mais Jakub Dobesch n'était pas très, très solide devant le filet. Donc, résultat, c'était 3-3 jusqu'en fin de match. Caulfield, qui a le sens du dramatique, marque le but vainqueur avec 15 secondes. Un 25e but, mais surtout un 7e but gagnant pour le petit numéro 13. Et coup de chapeau à l'ingéniosité du contre X chez le CH qui tag USA Hockey en plaçant la vidéo du but vainqueur de Cole Caulfield qui marque contre le Wild, accessoirement l'équipe de Bill Guérin comme DG, mais aussi DG de l'équipe américaine. Donc, bon match de Caulfield, bon match également pour Lane Hudson, un autre Américain boudé par la sélection américaine.
Oui, je pense qu'on l'avait un peu sur le cœur hein, chez les Tricolores. On l'a vu dans ce match-là et dans ce but-là de Caulfield aussi. Martin Saint-Louis en a parlé hier après le match. À quel point il est meilleur, il continue de s'améliorer quand vient le temps de lire le jeu, quand vient le temps de décider où se placer. Puis hier, Saint-Louis en parlait et disait c'est pas son spot habituel à Cole Caulfield, hier, d'où il a marqué, mais le jeu dictait qu'il aille se placer à cet endroit-là, c'est ce qu'il a fait. Il a pris un tir dans une position qu'il ne prend pas habituellement. On le sait d'habitude, là, au niveau de la position, c'était un peu plus... les patins étaient peut-être un peu moins écartés qu'on aime savoir, mais ça en dit long sur la progression d'un Cole Caulfield qu'on voit là, vraiment, j'ai goût de dire linéaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Ben, ce qui est intéressant avec le... Tu parles de son but. Hier matin, on est assis dans les gradins pour l'entraînement matinal, puis Adam Nicklaus travaillait exactement ce genre de séquence-là ouais. avec les joueurs du Canadien, c'est-à-dire faire une passe, se replacer, se revirer et se placer au cercle pour décocher un tir sur réception. Ça a été exactement la tu sais, on aurait pu faire un copier-coller avec ce qui s'est passé en matinée puis le but de Caulfield en soirée. Donc, c'est pas une position dans laquelle il est habitué, mais c'est une position qui travaille. Il disait justement, je pense, JF, tu l'as écrit dans ton texte, qui travaille cet aspect du jeu quand même souvent, cette position-là, ce jeu-là. Donc, pour Cole Caulfield, je pense que Martin Saint-Louis, au moins une fois par semaine, parle de lui comme d'un joueur plus complet, un joueur qui continue de s'améliorer sur 200 pieds, qui a appris à jouer au hockey de la bonne façon, pas seulement à marquer des buts comme à ses premières années, peut-être. Donc, pour le Canadien, c'est vraiment de le voir progresser de cette façon-là, je pense qu'il n'y a plus aucun doute sur le fait qu'il soit un plus petit attaquant puis qu'il a peut-être la difficulté à se démarquer contre la compétition plus grosse, plus féroce. Je pense que Caulfield a rassuré ou a fait mentir tous ses détracteurs, puis c'est de très bon augure pour le Canadien. Déjà 25 buts, il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs à jouer, donc ce sera intéressant de voir s'il ne pourra pas se mettre à la chasse aux 40 buts, au plateau des 40 buts cette saison. Je pense que c'est un objectif qui commence à être réaliste pour lui.
Puis 25 buts, mais 7 fois, comme je disais, but vainqueur. 7 buts vainqueurs, c'est un sommet dans la Ligue nationale qu'il partage avec Steven Stamkos.
Il est deux après en deux, match, même, là.
Oui, du côté d'Ottawa et contre le Wild à Montréal. Je posais la question à Caulfield, comment t'expliques le fait que t'étais aussi clutch? Il n'y a pas de bonne traduction clutch en français. Là, pourquoi il se lève dans les grands moments? Ça prend 6 mots pour arriver à un mot en anglais. Mais Caulfield avait une réponse plus plate en disant « J'aimerais ça aussi marquer tôt en début de rencontre. J'aime marquer des buts. C'est un sentiment que je connais. » Donc, réponse assez laconique de la part de Caulfield. Mais Kirby Dach, quelques vestiaires plus loin, quelques casiers plus loin, disait, écoute, il y a des joueurs qui ont cet instinct-là pour marquer les buts au bon moment, puis Caulfield en fait partie. C'est un marqueur naturel, il le fait depuis son tout jeune âge, il le fait avec le programme américain, il le faisait avec l'Université du Wisconsin, il fait encore une fois la même histoire du côté de la Ligue nationale. Donc, il n'y avait pas un match grandiose, là. C'était un match assez terne de la part du premier trio, un bon match, mais rien d'extraordinaire. Au bon moment, Caulfield, du haut des cercles, déséquilibré, sort un tir frappé. Il faut aussi saluer le jeu de Philippe Dano, qui se retrouvait sur la patinoire en fin de rencontre. Puis Dano a ses grosses fesses devant Jesper, pas si grosse que ça, là, mais il est quand même devant Jesper Wallstedt pour lui obstruer la vue. Résultat, bien, c'est un but pour Cole Caulfield. Puis hier soir, c'est une victoire méritée. Il n'y avait pas de doute. Le 2 points devait aller au CH et c'est le résultat final.
Puis, on l'a vu, là, c'est pas une excuse, mais on voyait que le Wild aussi était 2 matchs en 2 jours. Les Canadiens avaient eu 2 journées de repos, là, si on veut. Là. Et oui, il y a des entraînements et tout ça. Ça sentait là, aussi que les Canadiens avaient beaucoup, beaucoup plus d'énergie que le Wild ça, sur le match. Il y en a un, t'en as glissé un mot, mais Philippe Dano, c'est une performance qui a dû lui faire pas mal de bien d'aller marquer ce but-là qui datait depuis, écoute, je sais plus quel journaliste lui a dit exactement, je pense 257 jours. Une belle réponse.
274 jours.
Puis il a dit, au moins, j'avais marqué durant l'été à l'entraînement. Mais, tu sais, ça fait du bien. Parce que Philippe Dano, je ne sais pas comment vous voyez ça. On dirait en quelque part qu'il n'est jamais tant parti. Ça a tellement marqué ce qui s'est passé en 2021, jusqu'en finale de la Coupe Stanley, puis tout ça. C'est peut-être pas ça. Peut-être que le vestiaire a tellement changé puis qu'il reste juste quoi, Suzuki, Caulfield, de cette équipe-là là, qui est allée jusqu'en finale.
Anderson, Gallagher, il en reste quelques-uns.
C'est ça, Anderson, Gallagher. T'as 2 vétérans aussi puis t'as 2 jeunes.
Jake Evans.
Bon, OK, 3, calme-toi. Mais, il en reste-tu d'autres à part de ça? Tout le monde a changé.
Je pense qu'il y en a Bleu, c'est 0 de mémoire.
Je pense qu'il y avait 6 joueurs, mais... Ce serait une bonne question quiz.
OK, en tout cas. Mais peu importe tout ça pour dire, tu sais, quand tu vois un joueur comme ça qui a eu de la difficulté, qui arrive dans un nouvel environnement, que ça veut pas. Tu sais, juste le point de vue, pas nécessairement le jeu complet, mais de marquer. Ça doit être tellement positif pour un vestiaire qui n'arrête pas d'en accumuler des positifs. Contre Ottawa, on a accumulé. Tu sais, on se souvient contre Ottawa, là, en milieu de match, là, quand ça allait vraiment pas bien pour le tricolore, on se disait, oh, là, on commence à avoir une baisse de régime. Cette équipe-là est lentement en train, pas de casser, mais tu sais, une baisse de régime normale. Puis finalement, tu vas chercher le match en fin de match, tu vas chercher ça contre le Wild. Puis là, tu rajoutes une petite couche le fun, juste un petit glaçage avec Dano qui marque son premier but, avec Tricolore, son premier but depuis longtemps. Le moral dans ce chambre-là doit être au maximum.
Ouais, puis le moral du côté de Dano, vraiment, j'ai l'impression que ça y a fait le plus grand bien hier soir. Tu sais, c'est quand même confié. Il a dit en début de mêlée de presse que ça avait été quand même difficile, tu sais, de ramener ça à la maison aussi, d'être dans cette disette-là, de ne pas être capable de trouver le fond du filet. Hier, c'était son 44e match de la saison.
Il avait l'air de dire que son épouse a servi de psychologue une couple de fois là, dans la dernière année, j'ai l'impression. Là, c'est ça, là. C'est rare qu'un joueur va nommer son épouse pour la remercier, pour dire que ça a été difficile à la maison. C'est quand tu dis que c'est un tout, un joueur de hockey, là. C'est la somme de toutes les parties, là, comme on dit. Là.
Ben, il s'est comme confié, je suis resté un peu plus longtemps, puis j'ai finalement réussi à l'avoir un à un à la toute fin, puis je l'ai relancé justement sur ces mois difficiles-là. Puis, tu sais, il a remercié sa conjointe, puis c'est pas pour rien, parce qu'il dit un déménagement en plein milieu de la saison. On est arrivé ici à Montréal, on n'avait pas de maison, on n'avait pas d'école pour les enfants.
À part Maurice Richard, le déménagement en pleine saison, c'est pas recommandé d'habitude. C'est pas ce qui est le meilleur.
Non, c'est ça. Puis tu sais, il dit, je pense que le Canadien était sur la route quand il a été échangé. Tu allais rejoindre l'équipe, c'était pas à Montréal son premier match. Mm-hmm. Donc il dit, c'est beaucoup, beaucoup de choses. C'est de gros changements. Puis à travers ça, ben, t'as la disette, t'es pas capable de marquer. Et il m'a dit, j'ai essayé tous les outils qui étaient à ma disposition, tout ce que j'avais fait dans le passé pour essayer de débloquer, puis il n'y avait absolument rien qui marchait. Puis il nous a dit, hier soir ou hier dans la journée, il a fait un changement de mentalité. Il s'est dit, garde, je me concentre que sur le positif, les buts, peu importe. Hier matin, il dit qu'il a travaillé avec Trevor Letoski, fait de la vidéo pour justement voir à quel endroit il pourrait se placer sur la patinoire pour augmenter ses chances de marquer. Puis hier, ben, ramasse le retour de lancer à un pied du gardien, à un pied du demi-cercle adverse, marque son premier but. Je pense que ça lui a fait vraiment un grand bien. Là, on peut tourner la page puis dire, regarde, peut-être qu'il ne marquera pas dans ses 5 prochains matchs, mais au moins, il y a le petit 1 qui est dans la colonne début pour la saison. On peut mettre de côté cette longue disette de 44 matchs. Je pense que ça monte encore un peu plus si tu inclus les séries de l'an dernier avec les Kings de Los Angeles. Mais c'est quand même une perspective intéressante. Quand même, nous, on voit les joueurs, on les juge par leur performance sur la patinoire, mais il faut aussi penser à tout ce qu'ils ont à gérer, qu'elles sont échangées en plein milieu de la saison, les enfants, la famille qui déménagent, ça doit être vraiment un gros tourbillon en plus de tenter de t'habituer au style de jeu de ta nouvelle équipe, au nouveau système, nouveau coéquipier. Puis il a dit aussi, j'ai trouvé ça intéressant, il dit, tu sais, tout le monde rappelle la chimie avec Gallagher puis pense que ça va se faire en claquant des doigts, mais il dit, ça fait quand même 6 ans qu'on n'a pas joué ensemble, tu sais, la chimie revient pas instantanément. Hier, c'était le troisième match où il était au centre d'Anderson et Gallagher. Puis il a dit, j'ai vraiment senti que là, ça a cliqué, là, qu'on a retrouvé notre chimie, qu'on savait exactement où se placer, on savait quoi faire. Puis ça peut être, c'est très encourageant pour la suite des choses. Là, si cette chimie-là peut s'opérer puis rester dans le temps, ben ce sera un gros, gros positif pour le Canadien qui aura peut-être trouvé un troisième trio stable.
Puis si Dano peut amener une petite touche offensive, tant mieux, mais je revois des séquences du match d'hier. J'en parlais tantôt, mais Dano est devant le filet sur le but vainqueur. Mm-hmm. Le 5 contre 3 que le Wild obtient, le CH envoie Dano sur la glace pour la mise en jeu. Gagne cette mise en jeu-là, tu réussis à gagner en partant un 10-15 secondes. C'est là aussi le pain et le beurre de Philippe Dano. C'est son jeu défensif, c'est ses mises en jeu. Hier, il termine à 67 % au cercle. C'est exactement la raison pourquoi Kent Hughes, Jeff Gorton voulaient ajouter un joueur de centre. Puis Guillaume, si je peux faire du pouce sur ce que tu disais, l'envers du décor aussi pour certains joueurs. Je parlais avec Samuel Blais cette semaine dans le vestiaire du CH. Blais qui revient sur la passerelle de presse. Depuis le début de la saison, il y a 2 jeunes enfants, Samuel, 2 petites filles qui ont moins de 2 ans. Il n'a pas vu ses enfants depuis le début de l'année. Madame reste, sa copine reste du côté de la région de Québec. C'est une Américaine qui vient de Saint-Louis qui se retrouve à vivre essentiellement avec les beaux-parents qui parlent peu anglais et elle qui ne dit pas un mot de français. Donc, c'est plus difficile pour la communication. Samuel disait que, en théorie, début février, tout ce beau monde déménage du côté de Montréal. Ils ont trouvé un appartement. Ils commencent à être heureux parce qu'ils voient une stabilité arriver dans sa vie. Puis au même moment, bien, l'infirmerie se vide, puis le questionnement recommence dans sa tête. Elle mentionnait qu'au dernier jour de congé, il a pu conduire, aller du côté de Québec, serrer ses enfants dans ses bras, puis ça lui faisait du bien de les voir. Mais il dit le côté difficile, il dit que la plus vieille était étrangement plus tannante, plus impatiente. Bien, c'est normal aussi, même si elles sont très jeunes, s'ennuient de papa qui n'est pas trop à la maison, puis qu'on peut juste voir papa par FaceTime. C'est une réalité dont on ne parle pas souvent, mais ça peut peser aussi sur le moral d'un joueur pendant une saison de hockey.
Ah ouais, combien de fois tu vois des joueurs se sacrifier aussi, ou des parents, ou c'est des parents qui suivent leur enfant jusqu'en Amérique du Nord, par exemple, européens qui viennent vivre en Amérique du Nord juste pour ça, quand on dit que ça prend de tout pour faire un joueur de hockey, là, c'est le cas. Je reviens sur Dano, clairement son meilleur match depuis qu'il est avec le tricolore. On parlait de chimie avec Gallagher. Ça sera pas la même chimie non plus. C'est plus les mêmes joueurs. Les deux sont plus, peuvent plus offrir ce qu'ils offraient jusqu'à présentement. Mais si tu peux avoir ce troisième trio solide avec Josh Anderson, qui t'amène un peu, tu sais, c'est un trio un peu qui a un peu de sauce, là, tu sais, un peu de toutes les sauces.
Anderson apporte surtout de la rapidité à ce trio-là. Parce que
c'est
Gallagher et Dano, non, c'est plus les Ice Capades non plus, là, point de vue vitesse. Non.
Mais ce que je veux dire, c'est, t'as un troisième trio qui va peut-être trouver son aise puis être capable d'affronter les trios adverses jusqu'à la fin de la saison. Tu te poses pas de questions avec ça. Le deuxième trio, présentement, tu veux pas te poser de questions parce que ça va tellement bien pour Stavkovski, Kapanen, pour Demidov. Ce qui fait que quand un Kirby Dach revient au jeu comme hier, retour au jeu, a pas joué depuis longtemps, depuis, c'était quoi, octobre, là? C'était la quoi, quatrième, je vais pas me tromper, là, mais...
Mi-novembre. Dax, c'était 31 matchs, n'avait pas joué depuis le 15 novembre contre les Bruins.
15 novembre, bon, merci, ça fait longtemps, bref. Pas joué depuis longtemps, Dax, puis pouf, tu le places sur le premier trio. Est-ce que c'était une bonne décision de Martin Saint-Louis d'employer Dax dans une situation qui est quand même un peu risqué? Tu sais, tu vas affronter les gros canons de l'autre côté alors que tu es rouillé, complètement rouillé dans le cas de Dach.
Ben, ma première réaction, moi, je craignais que tu lui demandes une trop grande responsabilité en partant. Le résultat aussi, c'est près de 17 minutes de temps de jeu pour un retour au jeu pour Kirby Dach. Mais l'autre côté, quand tu regardes l'autre côté de la médaille, bien, tu places Dach à la même chaise qu'Alexandre Texier, puis tu gardes intact tes trois autres trios. Donc, tu n'as pas besoin d'y aller là, d'un jeu de domino. Kirby Dach a le talent, l'intelligence pour suivre avec Suzuki Caulfield. Honnêtement, il a passé le test. C'est un bon premier match pour Kirby Dach. Voyons voir si ça peut tenir à long terme. Puis l'autre question, c'est quand Alexandre Texier reviendra au jeu. Texier, on parle d'une absence à court terme, évaluation quotidienne. Qui gagnera cette lutte-là entre Dach et Texier? J'ai hâte de voir. Puis hier, avant de partir dormir, des fois, tu te poses de grandes questions existentielles. Puis je me disais, est-ce que Kirby Dach peut suivre les traces d'un Yoel Armia? C'est pas exotique, Yoel Armia, mais Armia était également un choix de premier tour. On croyait à une carrière offensive pour lui dans la Ligue nationale. Ça lui a pris plusieurs saisons avant de réellement trouver son rôle, son identité. Si Dach devient un Yoel Armia qui protège bien la rondelle en fond de territoire, qui offre de bonnes présences, qui offre du jeu lourd en zone adverse, Dach ne joue pas en infériorité numérique toutefois, contrairement à Armia, mais c'est le type de joueur. Puis là, je pense qu'il faut arrêter de se poser la question centre ailier avec les quatre centres en date d'aujourd'hui chez le CH, puis même dans le futur, je vois plus ou moins une place pour Dach au centre. Il deviendra un ailier au niveau de la Ligue nationale. Donc, il doit simplement offrir du hockey efficace sans trop se casser la tête. Puis la clé avec lui, mais c'est de rester en santé. C'est l'histoire de sa carrière depuis le jour 1.
Je sais pas, par contre, s'il est capable d'amener du jeu lourd. J'ai pas vu un joueur jusqu'à présent qui amène du jeu
lourd. Un Kirby Dach qui joue fâché, là, dans ses meilleurs moments avec le CH, oui, il est capable.
Oui,
mais c'est par séquence.
C'est par séquence.
S'il y en a un qui était par séquence, c'était Yoel Armia aussi. Là.
Ouais.
Ouais.
Vas-y, Guillaume.
Mais Yoel Armia, je trouve qu'il amenait aussi l'aspect défensif. C'est un joueur qui était très, très responsable. Puis, tu sais, même s'il jouait pas lourd, on pouvait se dire, bon, fais le travail en désavantage numérique, joue contre l'ego trio. Tu sais, je pense que Il y a beaucoup de chemin à faire pour que Kirby Dach se rende à ce niveau-là. Puis c'est vraiment un dilemme qui va être intéressant parce que est-ce qu'Alexandre Texier mérite de perdre sa place sur le premier trio avec ce qu'il a démontré dans les derniers mois, dans les dernières semaines? La réponse est non. Kirby Dack, qu'est-ce qu'on fait ensuite de ça? Si on dit que le deuxième trio est coulé dans le béton, le troisième commence à montrer des signes d'un trio qui pourrait rester stable. Le reste, le quatrième trio, est-ce que Kirby Dack est utile sur un quatrième trio? Est-ce que Alexandre Texier est utile sur un quatrième trio? La réponse est probablement non. Mais bon,
ben, ça
l'avenue,
dépend.
Si l'avenue que GF avançait d'essayer de transformer un peu le joueur en...
dans ses rêves, là, quand il fait des rêves le soir avant d'aller se coucher.
Je suis un peu inquiet de ses pensées avant le dodo, là, mais...
On salue Fanner qui se demandait pourquoi son chum parlait tout seul le soir en faisant nommer des joueurs et des schémas défensifs.
Mais tu sais, ça va être vraiment intéressant de voir les décisions de Martin Saint-Louis dans les prochains jours, parce que se retrouve quand même avec beaucoup beaucoup de profondeur, beaucoup de joueurs qui ont gagné un poste, qui ne méritent pas de le perdre, comme Alexandre Texier. Puis là, va devoir prendre des décisions. Tu sais, un Véleno, un Bolduc, un Samuel Blais, on vient d'en parler. Ça commence à faire du monde à la messe, mais on peut se reparler dans une semaine, puis il va y avoir deux nouveaux blessés à l'infirmerie, puis le dilemme va être évité. Tu sais. Mais pour l'instant, je pense qu'il va y avoir des grosses décisions à prendre.
Je ne veux pas trop poursuivre sur mon rêve, Yoel Armia, Kirby Dack. Il n'y a pas de doute que Yoel Armia est un meilleur joueur défensivement. Mais je parle en termes de profil. On parle de deux ailiers de 6'3", 6'4", plus de 200 livres qui sont quand même lourds. Je suis d'accord avec Guillaume. Alexandre Texier, son audition à l'aile droite du premier trio, il a très bien joué avec Caulfield Suzuki. Je ne serais pas surpris de revoir Texier à cette position-là. Si jamais Dack doit changer de place, mais un Dack avec Jake Evans au centre, puis peut-être Zachary Bolduc à l'aile gauche ou Joseph Véleno, c'est pas un vilain quatrième trio, loin de là. Ça peut même devenir ton troisième trio un soir où Dano Anderson Gallagher, si Gallagher maintient toujours sa place également, un match moyen dans le corps, mais tu peux en donner plus
un
à Evans.
Aussi, là.
Un 2-2, donc ouais. Ça te permet de rouler. Puis Martin Saint-Louis dit souvent qu'il aime ça, travailler en vague, pouvoir miser sur ses quatre trios. Si tu te retrouves avec Kirby Dack à l'aile d'un quatrième trio, ça reste quand même une belle profondeur et un beau problème à avoir entre tes mains.
Ouais. Et la réalité, c'est que Kirby Dack, avec ce qu'on a vu de lui depuis le début de sa carrière, les hauts et les nombreux bas, est à la croisée des chemins, puis il est peut-être à une croisée des chemins où il va falloir qu'il décide qu'il doit devenir un joueur de rôle et d'adapter son jeu à cette réalité-là. Ce sera jamais ce qu'on pensait de lui quand il avait été repêché par les Blackhawks au troisième rang. Mais si tu veux rester dans la Ligue nationale de hockey à long terme, il va falloir qu'il adapte. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter? Est-ce qu'il va être capable d'accepter cette réalité-là? C'est là que ça va. On va séparer justement le nombre de matchs qu'il va jouer dans sa carrière. Mais les réalités, comme tu dis, JF, c'est que moi, je pense pas que c'est un joueur qui peut évoluer sur le premier trio. Puis c'est ça ma prochaine question. Bon, juste un petit topo sur Texier avant, les gars. C'est quoi le topo, nos amis là, en France? Là? C'est quoi le portrait là, au niveau de la blessure pour Texier? Là?
Ben Alexandre Texier, du côté d'Ottawa, là, après le match, tu as toujours les joueurs qui sortent du vestiaire, vont ranger leur équipement de hockey, question d'aider les trainers de l'équipe, les gérants de l'équipement. Puis Texier, bon, ça semble être le bas du corps. Disons que la cuisse, il y avait beaucoup de tape sur sa cuisse, beaucoup de rubans pour protéger sa cuisse. Donc, peut-être laine, peut-être la cuisse, blessure au bas du corps. Un bobo qui le dérange depuis quelques jours. Il n'a pas patiné lundi pour un entraînement complet du CH. Il n'avait pas patiné également vendredi du côté d'Ottawa à la veille du match contre les Sénateurs. Samedi soir, il était en uniforme. Temps de jeu quand même limité pour Alexandre Texier. Un match assez terne aussi pour le Français. Mais on n'a pas parlé d'une absence à long terme, quoi que ce soit. Je crois qu'avec Dack qui revenait au jeu, tu avais le luxe de dire à Texier, bien, prends quelques jours supplémentaires pour te reposer. Question de guérir rapidement et de ne pas traîner cette blessure-là. Puis il y a la pause olympique aussi qui s'en vient. Donc, peut-être un autre match ou deux pour Alexandre Texier, mais je ne m'attends pas à une absence à long terme.
Bon, dans cette situation-là, on a Texier qui va éventuellement revenir au jeu. On a Kirby Dack qu'on veut laisser quelques matchs. Tu sais, je pense pas que c'est juste de juger la performance de Kirby Dack hier après autant. Il faut y laisser 4-5 matchs pour réellement voir ce qu'il peut faire. Tu regardes ces deux joueurs-là. Est-ce qu'à long terme, c'est une option pour le premier trio? C'est qu'est-ce que vous voyez à long terme pour ce premier trio-là? Est-ce que ça peut être un de ces deux-là? Est-ce qu'éventuellement, on va devoir ramener Juraj Slafkovský qui... Je veux dire, Slafkovský a l'air fait pour jouer sur ce premier trio-là avec Suzuki, avec Caulfield. T'as un marqueur, t'as un passeur, t'as un gros bonhomme. Ice hockey, vous avez déjà joué à ice hockey quand tu formais tes trios, tes équipes. T'avais un moyen, un petit, un moyen, puis un gros. Puis là, tu te mettais un deuxième gros pour avoir plus de fun, plus de combat. Mais pas de combat de mise en échec. Je pense qu'il n'y avait pas de combat à ice hockey, c'était à Blades of Steel. Mais est-ce que c'est possible? Ou quand tu vous regardez à long terme, avec ce que les Canadiens ont dans leur formation, là, dans leur bassin d'espoir, on n'aura pas le choix de procéder à une acquisition. Il n'y a personne dans cette liste-là qui va venir remplir ce rôle-là sur le premier trio. Si on décide de garder Slafkovský avec Demidov et Kapanen, parce que ça aussi, ça marche super bien.
Ouais, ben c'est certain que je pense que c'est un poste qui est à gagner en ce moment. Puis pour l'instant, Alexandre Texier faisait un excellent travail avant sa blessure. Je pense que Martin Saint-Louis est dans une position où il va mettre le joueur qui lui donne le meilleur résultat, puis on va tenter l'expérience jusqu'à temps que ça ternisse, puis après ça, ben tu peux essayer un DAC, tu peux essayer, tu sais, Bolduc a aussi eu une audition sur ce trio-là pendant la saison, donc tu sais, il n'y a rien de coulé dans le béton. Slafkovský, moi, pour l'instant... Parce que si ça se poursuit avec Demidov et Kapanen, il n'y a aucune chance que je le replace avec Suzuki et Caulfield parce que là, on a vraiment le one-two punch. Moindrement que l'ailier qui est avec Caulfield et Suzuki fait le travail, comme on l'avait avec Texier, mais là, ça donne une très, très bonne force de frappe avec les deux premiers trios. Donc, je pense que c'est du court terme. Je pense pas qu'on peut regarder à moyen, long terme avec ce poste-là. Je pense que Martin Saint-Louis va jongler avec les options qu'il a sous la main jusqu'à temps de trouver peut-être la recette parfaite. Une acquisition, peut-être, mais tu sais, on disait déjà qu'il y a beaucoup, beaucoup de trafic dans la formation. Là, d'aller, tu sais, pourrait donner un attaquant en retour, là, mais... T'sais, je sais pas. Puis en même temps, l'attaquant que tu vas aller chercher, est-ce qu'il va avoir un fit parfait avec Caulfield et Suzuki? Ça, c'est une autre question. Je pense que pour l'instant, le Canadien n'est pas dans une mauvaise position parce qu'il y a quand même des bons résultats avec l'ailier qui place en compagnie de Caulfield et Suzuki. Au moment où plus personne ne livrera la marchandise, ben là, on pourra se poser des questions. Mais pour l'instant, je pense que le Canadien est quand même dans une bonne posture avec ça.
Moi, je vais reculer de plusieurs mois. Tournoi de golf du Canadien au mois de septembre, quand on parlait de l'acquisition d'un attaquant top 6 chez le CH, Jeff Gorton avait dit « On a le luxe d'être patient. » Je pense que si tu avances quelques mois plus tard, le CH a encore plus ce luxe-là. Tu as Texier qui te montre qu'il peut servir de dépanneur à l'aile d'un premier trio. Tu as peut-être l'option Kirby Dack. T'as peut-être l'option Zachary Bolduc si Zachary Bolduc redevient le Zachary Bolduc de fin de saison avec les Blues de Saint-Louis ou celui qu'on a vu pour les 10 premiers matchs du calendrier à Montréal. Donc, t'as quand même des cartes à jouer. Pour ton autre question, Juraj Slafkovský, je touche pas à Juraj Slafkovský, je le laisse à l'aile du deuxième trio. Je pense qu'il doit être dans une position où il est le joueur dominant au sein de son trio, celui qui peut transporter la rondelle. Il le fait avec Demidov. Ça te fait deux duos très forts, Suzuki, Caulfield, Demidov, Slafkovský, même si les deux sont des alliés. Kapanen peut suivre la parade. Depuis le 17 novembre, c'est la date où Slafkovský joue un premier match avec Kapanen. Il y a eu un 4-5 matchs où Slafkovský était revenu avec Suzuki et Caulfield. Là. Mais depuis le 17 novembre, Slafkovský, c'est 31 points en 32 matchs. 13 buts, 18 passes, 31 points, dossier de plus 3. Joue, sans l'ombre d'un doute, le meilleur hockey de sa carrière. Donc, tu gardes Slafkovský à l'aile gauche du deuxième trio.
Ouais. Demidov fonctionne aussi très, très bien là, depuis, ouais. Depuis 25 matchs. Je pense que c'est un point par match. Là, donc, c'est on ne touche pas à une recette gagnante. Non, non, on n'essaie pas de réparer ce qui n'est pas brisé.
Mais juste Demidov, Guillaume, là, depuis le 17 novembre, Demidov, c'est 30 points en 32 matchs. Donc, 7 buts, 23 passes. Kapanen, c'est 17 en 32, 10 buts, 7 passes. On parle d'un trio qui est très, très productif puis qui permet à Suzuki et Caulfield de respirer un petit peu.
Il en est rendu où, là, dans la course au Calder, Demidov? 43 points, 50 matchs, premier marqueur. Schaefer est encore là avec 34 points en 49 matchs, mais je pense que Demidov a repris un petit peu du poids de la bête, surtout par rapport à Beckett Seneke. Puis disons que s'il veut envoyer sa cassette à la Ligue, le but d'hier avec Hudson, là, ça peut faire un bon tape à envoyer, comme on dit dans le terme du recrutement sportif. Deux matchs qui s'en viennent, deux matchs super importants. Le Canadien va affronter les Sabres de Buffalo jeudi et les Bruins de Boston qui vont être les autres des Canadiens. Samedi, c'est les deux équipes qui suivent au classement, les deux équipes qui sont dans les deux places de 4e as présentement. Le Canadien va bien évidemment avoir l'œil sur Tage Thompson. Hein, on se souvient ce qu'il a fait la dernière fois que les deux équipes ont croisé le fer, 5.3 buts. Vous regardez ça, ce qui s'en vient, c'est quoi votre stratégie au niveau de l'utilisation des gardiens? Dobesch a gagné hier, mais pas un grand match. Montembeau a laissé beaucoup de buts à entrer samedi à Ottawa, mais il a fait les gros arrêts, les arrêts clés au moment clé. Vous faites quoi pour les deux prochains matchs?
Ben moi, je ne serais pas surpris de voir Montembeau contre les Sabres et Montembeau contre les Bruins à Boston. Je pense que tu arrives au moment où tu dois miser sur ton gardien qui est le plus stable. Oui, il y a les 5 buts contre les Sénateurs d'Ottawa. C'était pas un départ parfait du côté de Samuel Montembeau, loin de là. Mais avant ça, il avait offert 4 bons départs d'affilée. Dobesch gagne ses matchs, mais Dobesch gagne en étant un habile jongleur, un gars du Cirque du Soleil. Il est parfois tout croche devant son filet. Hier soir, c'est 3 buts sur 19 tirs, si ma mémoire est bonne.
Ouais.
3 buts sur 19 tirs, c'est pas un grand taux d'efficacité. Dobesch pourrait obtenir un départ la semaine prochaine contre l'une des deux équipes de l'Association de l'Ouest où l'enjeu est peut-être un petit peu moins grand. Même si on parle de deux bons rivaux qui vont s'en venir la semaine prochaine.
Tu sais, en même temps, tu regardes ce qui s'en vient avant la pause. Là. On a Vegas, Colorado la semaine prochaine, Buffalo encore une troisième fois en 3 semaines, puis on retrouve le Wild au Minnesota. Bon, il y a les Jets aussi, là, mais ça, je pense qu'on peut. Il ne rentrerait pas dans la catégorie des gros défis, là, mais
les Jets, là, le réveil s'est fait là, à Winnipeg. C'est un peu moins pire là, depuis.
Ouais.
On a gagné 5 matchs sur nos 10 derniers. Excuse. C'est moins pire. C'est moins. Disons que c'est pas une marche dans le parc.
C'est moins pire, mais c'est pas l'avalanche du Colorado.
Absolument. Je te le donne. Si tu veux me le présenter comme ça, Guillaume, pas de trouble, je te le donne.
Mais tu sais, moi, si je suis Martin Saint-Louis, si je suis Éric Raymond, l'entraîneur des gardiens, est-ce que tu es confiant d'envoyer Jakub Dobesch devant le filet contre Vegas, contre Colorado? Oui, il gagne, mais tu sais, hier, c'était très ordinaire.
Mm-hmm.
Tu sais, sur un déplacement, il perd l'équilibre. Il a fait des arrêts avec son derrière en premier devant la rondelle plutôt que son corps. Tu sais, c'est comme, tu te dis, OK, ça fonctionne, mais jusqu'à quel point on peut étirer l'élastique, là, parce que c'est croche un petit peu du côté de Jakub Dobesch. Et tu sais, je regardais quand même. Dobesch, c'est une de ses. Il aime répéter qu'il gagne, puis on regarde sa fiche, puis c'est vrai, mais c'est dans la colonne des buts, du soutien offensif qu'il obtient, quand même 3,29 buts depuis le début de la saison. Donc, pour gagner, il faut que tu en donnes moins que 3. C'est quand même un coussin considérable. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de soutien. Je pense pas qu'on peut se fier seulement à la colonne des victoires puis dire, ben, c'est un gardien qui gagne puis on va être correct. Parce qu'à un moment donné, la loi de la moyenne va le rattraper puis de la façon dont il se comporte devant son filet, Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation, beaucoup d'inquiétudes de mon côté. En tout cas, je vois pas comment on peut maintenir ça à long terme avec Jakub Dobesh parce que c'est croche.
Mais si le doute s'installe aussi, autant chez Dobesh que chez Montembeau, le CH reste à un coup de fil de ramener Jakub Fowler. Ils n'ont pas dit non plus que Fowler partait pour Laval avec son baluchon et qu'il y restait jusqu'à la fin de la saison. C'est possible de revoir Jakub Fowler. C'est qu'en ce moment, garder trois gardiens quand tu as l'infirmerie qui se vide, c'est pas la meilleure équation parce que tu as besoin d'une place pour ta formation. Dobesh n'a pas été convaincant contre le Wild, ça, il n'y a aucun doute. Mais comme Guillaume disait, lui, il va finir par regarder sa fiche, puis c'est son argument de vente en disant qu'il est quoi, le 15-5? 15-5-3 pour Jakub Dobesh, 9-6-2 pour Samuel Montembeau et 4-4-2 pour Jakub Fowler. Mais ça reste, tu sais, 4-4-2 Jakub Fowler, mais c'est lui qui a la meilleure moyenne puis c'est lui qui a le meilleur taux d'efficacité. Donc Fowler n'obtient pas le même coussin offensif que Jakub Dobesh.
Ce que je répétais tout le temps quand j'avais ma chronique de gardien de but sur notre site, des victoires, les défaites, la fiche, c'est pas une statistique de gardien. Au même titre qu'au baseball, Paul Skeens.
Victoire-défaite pour un lanceur partant. Ouais.
Victoire-défaite pour un lanceur. C'est une statistique d'équipe. Puis si tu regardes parmi tous les gardiens qui ont joué au moins 10 matchs là, cette année, là, au niveau de ce qu'on appelle le pourcentage d'arrêt par rapport à ce qui est attendu, Dobesh, il est 41e sur 64 gardiens qui ont joué au moins 10 matchs cette année. Montembeau est plus bas que ça quand même, ça je vais donner, mais Montembeau, on sait à quel point justement, tout le monde a dit Montembeau, ça ne fonctionne pas cette année. Là, ça se place un petit peu. Dobesh, lui qui dit « moi, mais je gagne », mais quand tu regardes un peu les statistiques, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, on verra
ça correspond,
bien.
Les stats avancés correspondent au test de l'œil. Cette donnée-là.
Ça, là, si tu réussis à mettre ces deux choses-là ensemble, là, tu fais plaisir à tellement de monde tout d'un coup. Allez, les gars, on va lâcher le Canadien. Tu as parlé un petit peu des Golden Knights rapidement. Guillaume, je vous amène là-dessus. Transaction, les Golden Knights qui ont encore une fois répété que des choix de première ronde, c'était pas important pour eux autres dans leur évolution. On procédait à une transaction, on a été chercher Rasmus Anderson dimanche en retour du défenseur Zach Whitecloud, l'espoir Abraham, choix de première ronde et choix de deuxième ronde conditionnel. Est-ce que Anderson est un peu la pièce qui était manquante chez les Golden Knights depuis qu'Alex Pietrangelo est sur la liste des blessés pour, certains disent, pour le reste de sa carrière, mais est-ce qu'on est allé chercher le morceau qui nous manquait pour vraiment être des aspirants à la Coupe Stanley sûrs et certains, surtout qu'on risque de croiser l'avalanche, là, avoir l'avalanche dans nos pads d'ici la fin de la saison. Là.
Est-ce que Rasmus Anderson et Alex Pietrangelo se ressemblent? Pietrangelo a beaucoup de caractère. C'est un gars qui avait gagné une Coupe Stanley du côté de Saint-Louis avant d'arriver à Vegas et d'en gagner une autre. C'est l'objectif du côté de Vegas, d'obtenir un remplaçant de renom. C'est un droitier, c'est un bon défenseur mobile, peut amener de l'offensive. S'ajoute quand même à une bonne brigade de défenseurs qui compte déjà sur Shea Theodore, Noah Neffin. Mais c'est vraiment la recette Vegas. C'est au diable le futur, au diable l'avenir, des choix à repêchage. Et c'est là comme des bonbons à l'Halloween. Là. Tu t'en donnes à tout le monde. Puis il n'y a pas de stress.
Eux, soyons francs, ils considèrent que c'est des choix de deuxième ronde. Parce que
ils vont finir entre 25 et 32, ronde, exact. Puis ils ont des visées, clairement, pour cette saison. À l'été, quand tu obtiens Mitch Marner, c'est parce que tu veux avoir un printemps assez long. Je trouve, par contre, qu'ils ont une saison très décevante. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part des Golden Knights de Vegas. Peut-être que ça n'a pas encore... Ouais, exact. Adenil a manqué beaucoup de matchs. Mais on dirait que le gâteau n'a pas encore levé du côté des Golden Knights. Puis ça reste une équipe qui a un noyau quand même vieillissant aussi. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'Anderson pourra faire.
Et on utilise Mitch Marner au centre présentement. J'ai fait le saut l'autre jour en regardant ça. Mais on marque énormément de buts chez les Golden Knights. Comme tu dis, je pense que la sauce va commencer à prendre l'ajout d'Anderson, le retour d'Adenil, ça va probablement aider. Les gars, troquez votre micro, je vais vous demander de mettre un sarreau. Vous n'êtes plus des journalistes, vous êtes maintenant des coronaires, OK? Parce que ça fait un coroner, ça analyse une scène où quelqu'un, une personne est décédée ou peu importe. On va analyser deux décès qui se sont produits dans la dernière semaine, celui des Rangers de New York, celui des Canucks de Vancouver.
Qui c'est dramatique ont ouvert la porte. Affaire, Nick.
Ah, il va avec c'est les ça. Images. Qui ont annoncé qu'ils y allaient pour une reconstruction, réinitialisation, restructuration, utilisez le mot que vous voulez. Normalement, ça veut dire que pour les 2-3 prochaines saisons, sur la petite télé, là, ça fait piiip. Alors voilà. Les gars, je veux que vous m'analysez qu'est-ce qui a mal tourné. On va commencer avec les Rangers. Qu'est-ce qui a mal tourné chez les Rangers dans les dernières années qui fait qu'on en est au point où on dit à un Artemi Panarin, on va pas te re-signer cette année?
Ben, tu sais, on en a glissé plusieurs mots ces dernières années, mais tu sais, j'ai l'impression que ce qui a fait dérailler le plan, en tout cas d'un point de vue extérieur, puis en lisant tout ce qui s'est passé du côté de New York, mais il y a quelque chose dans ce vestiaire-là qui a déraillé, je pense que c'était la saison dernière. On s'attendait à de grandes choses quand même des Rangers. Puis finalement, ben, oups, on échange le capitaine, on acquiert J.T. Miller, on tente de réparer les pots cassés. Puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne de ce côté-là. Puis quand quelque chose est brisé à l'intérieur d'un vestiaire, je pense que c'est difficile à réparer. Il y a aussi Chris Drury qui a pas mal de monde voyait peut-être perdre son poste au cours de l'été. Finalement, on lui donne une prolongation de contrat. On avait l'impression que, tu sais, sans dire qu'il faisait partie du problème, que c'était quand même un élément qui faisait en sorte que la sauce prenait pas du côté de New York. Puis finalement, bon, on lui donne une prolongation de contrat. On nomme J.T. Miller capitaine. On voit des séquences de J.T. Miller cette année en zone défensive où il a l'air complètement désintéressé de la cause des Rangers. Je pense que ça en dit beaucoup sur... Il y a quelque chose qui cloche à l'envers du décor. On sait pas c'est quoi. Mais, tu sais, je pense que c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont mises à dérailler. Puis après ça, ben là, tu as une succession de décisions aussi au niveau du personnel hockey qui ont peut-être accéléré, disons, la chute des Rangers.
Et tu amènes un nouvel entraîneur cette année, il n'y a pas plus d'étincelles, au contraire. Oui, Shesterkin est blessé. Puis il a été quelquefois. Oui, Adam Fox est blessé. Absolument. Est-ce que ça explique pourquoi cette équipe-là a piqué du nez cette année? Oui, mais. En même temps, souvenez-vous, en début de saison, on gagnait à l'extérieur, on gagnait jamais à la maison. L'autre point que je vais emmener, le développement des jeunes. Hein, combien de choix de première ronde n'ont pas levé? C'est encore le cas pour Alexis Lafrenière. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec Alexis Lafrenière dans cette reconstruction-là. Est-ce qu'on va s'accrocher à lui? Est-ce qu'on va lui offrir un nouveau départ? Mais vraiment, dans le cas des Rangers, moi, c'est là le plus gros problème. C'est qu'on n'a à peu près aucun jeune qui a réussi à monter dans cette organisation-là, qui aurait dû être le pont entre les vétérans, justement, et la suite qui t'aurait donné 2-3 bons trios. À part Will Cooley, là, qui joue, c'est un joueur honnête, mais qui va rien casser.
Il y a pas Kaku vraiment aussi jeune qu'on a laissé partir.
Ouais. Il y a Gabriel Perreault qui est un bel espoir du côté de Manhattan, mais ça reste très, très, très mince. Tu as parlé de Mike Sullivan. On dirait qu'il y avait cette pensée magique-là que Mike Sullivan était pour corriger tous les problèmes des Rangers, mais ça n'arrive pas. Puis t'as aussi, tu sais, Kent Hughes est un ancien agent de joueur qui accorde une très grande importance à la relation humaine avec ses propres joueurs. Tu regardes les dossiers du passé, se débarrasser du capitaine Jacob Trouba dans situation assez trouble. Barclay Goodrow, qui est un vétéran respecté, même chose, tu lui disais, mais on va te placer au balotage si tu refuses d'être échangé, puis tu vas finir par partir. Chris Kreider, donc tu touches à trois pièces du casse-tête qui avaient une voix importante chez les Rangers de New York, mais ça peut aussi faire en sorte que quelques mois plus tard, tu as le même problème parce que les vétérans ne se sont pas sentis parfaitement respectés, probablement à l'intérieur du vestiaire des Rangers. C'est une équipe qui est vieillissante également. Guillaume en parle depuis 2 ans qu'il s'attendait au retour des Rangers, mais là, je pense que c'est terminé. Mais dans sa lettre, Chris Drury parle...
À sa défense, je veux dire, je pensais à la même chose.
Ouais.
Les Shesterkin et les Rangers me font perdre des poules depuis 2 ans.
Mais une culture qui devient malsaine, c'est parfois difficile à... à freiner. Là, la boule de neige devient trop grosse. Chris Drury a parlé d'une réinitialisation, pas une reconstruction. Puis ce qui peut faire en sorte que ça va être plus rapide, c'est que New York restera toujours New York.
Ouais.
Quand tu veux attirer des joueurs sur le marché des joueurs autonomes, mais même ça, le marché des joueurs autonomes, il y a de moins en moins de gros noms qui débarquent sur ce fameux marché-là. La recette la plus fiable reste le repêchage, puis les Rangers devront grandement s'améliorer en matière de repêchage.
Puis en ce moment, tu sais, à Montréal, on parle beaucoup de la culture d'équipe, puis le mot se passe à travers la ligue, puis les joueurs savent que c'est plaisant de jouer à Montréal, c'est le fun, il y a une belle ambiance, il y a une belle culture d'équipe. Je comprends que New York, c'est New York, il y a ce point de vente-là, mais si le mot se passe à travers la ligue, que l'ambiance dans le vestiaire des Rangers n'est pas au beau fixe, que les joueurs sont mécontents, sont pas heureux.
C'est un marché où il y en a de la pression aussi.
Ça peut être difficile aussi.
Ben, c'est ça.
Ouais, oui,
il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de distractions aussi à New York. C'est vraiment. C'est pas pour rien que cette équipe-là n'a pas gagné la Coupe cette année, oui, en 94, mais dans l'histoire de cette concession-là, on n'en a vraiment pas beaucoup de Coupe cette année. Écrivez d'ailleurs, si vous voulez des bonnes distractions, il y avait Studio 54, là, dans le temps, là, écrivez le commercial Sassoon Rangers. Vous allez avoir droit à un bijou sur YouTube de l'équipe des années fin 70. Disons que ça roulait, ça avait l'air de rouler sur et hors de la glace à l'époque commerciale de Jesus. Je viens juste en février 2018, les Rangers avaient écrit une lettre à leurs partisans pour annoncer aussi que là, ils procédaient à une reconstruction. C'était Glenn Sater qui était président, Jeff Gorton qui était DG. Les deux n'ont pas survécu à cette reconstruction-là. Pensez-vous que justement Chris Drury va y survivre à cette reconstruction-là?
J'ose pas trop m'aventurer. Techniquement, ne devrait pas survivre, mais il y a parfois des DG qui ont des liens forts avec au sommet de la pyramide.
Ouais. Puis, une chose
je suis déjà surpris de le voir toujours en poste. Donc,
Moi, je suis surpris de voir une deuxième lettre. La première fois, OK, mais nos partisans, on vous respecte, on fait une reconstruction. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi tu irais avec la même recette de dire « Fais-nous confiance, là, cette fois-là, ça va être la bonne. » Tu sais, il y a aucun signe qui pointe vers ça. Puis tu parlais du développement des joueurs. La grosse question, c'est Alexis Lafrenière, tu fais quoi avec? C'est un joueur de 24 ans. Est-ce que ça cadre dans ta réinitialisation? Est-ce que ta projection de dire « Dans 3, 4, 5 ans, on veut redevenir compétitif. » Est-ce qu'Alexis Lafrenière fait partie de ce noyau-là ou est-ce que tu t'en sers comme appât dans un échange? Je pense qu'un changement d'air, pour lui, ça lui ferait le plus grand bien. Puis on pourrait peut-être voir, est-ce que c'est un espoir qui est vraiment... qui a vraiment plus de potentiel ou qui a perdu le potentiel qu'on voyait en lui? Il pourrait rebondir ailleurs puis connaître enfin le départ qu'on espérait. La saison de 57 points en 82 matchs, 28 buts, on voyait peut-être le début de ça, mais ça c'est depuis ce temps-là, ça a vraiment ralenti de son côté.
Et ce qui est pas mal certain, c'est que Chris Drury n'aura pas la chance de mettre la main sur Artemi Panarin, ce qui avait été le cas à l'époque, puis c'est ça qui avait lancé la reconstruction en mode turbo. Chez les Canucks maintenant, on a échangé Kiefer Sherwood, surprise des Sharks qui sont acheteurs. Ça signifie aussi que les Canucks, on s'en va vers le fond du classement. C'était un noyau qui était tellement solide il y a quelques années à peine. T'avais Quinn Hughes, t'avais J.T. Miller, Brock Besser, Elias Pettersson, Thatcher Demko, Philippe Roenick aussi qui avait été ajouté. Mais j'ai toujours trouvé un manque de profondeur puis une absence de plan un petit peu du côté des Canucks. À travers toutes ces années-là, Demko blessé, ça a fait énormément mal à cette équipe-là. Mais encore là, dans ce cas-ci, le noyau, c'est un peu comme à New York. Hein? On a toujours senti qu'il y avait quelque chose qui accrochait dans ce noyau-là.
Oui, puis ça a été peut-être accentué avec le départ de Quinn Hughes, transaction majeure. Les Canucks n'étaient pas si loin. Il y a quelques années, ils pouvaient rêver à de longs parcours en série. Ils ont quand même fait très peur aux Oilers d'Edmonton il n'y a pas si longtemps. Ils étaient de passage du côté de Montréal. C'est quoi, Guillaume? C'est la semaine dernière? Un lundi soir.
Ouais.
Puis tu regardais la formation des Canucks, puis le mot reconstruction, tu n'as pas le choix d'y aller avec cette thématique-là. C'est très, très mince du côté de Vancouver. Là, ils vont vouloir accumuler les choix de repêchage, repartir la machine. Patrick Alvin, Jim Rutherford ont eu à prendre des décisions quand même difficiles dans les derniers mois. Tu as échangé Quinn Hughes, ça restait ton capitaine, ça restait un joueur franchise, un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey qui est encore dans la fleur de l'âge. Tu as beau obtenir 2-3 joueurs en retour et des choix, ça reste que tu perds le meilleur joueur sur qui tu devais bâtir ton équipe. Maintenant, tu bâtis autour de qui chez les Canucks de Vancouver? Elias Pettersson, sa saison s'en va, pas sa saison, mais sa carrière s'en va vraiment pas dans la bonne direction. Brock Besser est un ailier correct pour un des deux premiers trios, mais c'est pas avec lui que tu bâtis non plus. Peut-être Ziv Boyum à long terme, mais encore là, ça reste un projet à long terme. Du côté de Vancouver, les partisans n'ont pas la plus grande patience au monde. Ils sont mieux de s'attacher parce que ça pourrait être très long.
Puis tu rajoutes, je disais qu'il n'y avait pas de plan. Là. Souvenez-vous, on n'avait pas signé Bo Horvat. On l'avait échangé aux Islanders. Après ça, on avait donné la lune pour Elias Lindholm. Encore là, il y a eu beaucoup d'erreurs au deuxième niveau. Si on parle de Chris Drury, qui est encore là, je ne sais pas, la patience va être longue pendant combien de temps avec les Canucks. Là, on a donné un vote de confiance à Adam Foote qui, écoute, est-ce qu'on peut réellement juger sur ce que son équipe a fait cette année? Je ne sais pas. Là, ça prend une reconstruction. Je pense que, c'est ma prochaine question, si vous regardez les Rangers, si vous regardez les Canucks, qui, dans les deux cas, là, la banque d'espoir, c'est très, très faible. En plus, il faut vraiment repartir à zéro. Il n'y a peut-être pas un peut-être joyau comme Bouillum à New York, mais quand vous regardez ce qu'il y a en place puis ce qui s'en vient, laquelle de ces deux équipes-là va sortir de la tête, l'eau de la, voyons, la tête de l'eau en premier?
C'est dur à dire. Je pense que... Est-ce que le noyau des Canucks est un petit peu plus jeune? Tu sais, je pense qu'on a quand même certains jeunes éléments qui sont intéressants. Là. Tu sais, je regarde la banque d'espoir, un Jonathan Lekirimaki qui a toujours, moi, il m'a toujours bien plu au championnat mondial junior. Je sais que c'est juste un tournoi. Puis, tu sais, lui, il a quand même beaucoup d'espoir en lui là, du côté de Vancouver. On espère qu'il devienne un attaquant de premier plan. Tom Wilander, qui est un bon défenseur aussi. Braden Coutts, on l'a vu un peu avec la formation canadienne au championnat mondial junior. Je pense pas que ce sont des joueurs qui vont tourner cette équipe-là, faire tourner le vent là, du jour au lendemain. Là. Je pense pas que ce sont des espoirs vraiment de catégorie A+. Mm-hmm. Mais j'ai quand même... On dirait que j'ai plus espoir du côté des Canucks. Un Ziv Boyum, c'est quand même une bonne pièce autour de laquelle bâtir en défensive. Moi, j'ai une grande confiance en ce joueur-là. Je pense que ça peut être un défenseur qui va avoir un grand impact au niveau de la Ligue nationale. Donc, seulement on regarde les petits détails, les petites pièces qui peuvent donner espoir. Je pense que du côté de Vancouver, on est déjà dans le processus. Là. La lettre n'a pas été envoyée, là, mais quand on a vu la formation lundi dernier. Là. Non, mais tu sais, puis en plus, je me souviens, Adam Foote a passé les deux premières minutes de son point de presse le matin à donner des mises à jour sur les blessés de l'équipe. Fait que, tu sais, lui, je pense que... On a dit qu'on avait confiance en lui. Je pense pas qu'il y ait une raison de le congédier en plein milieu de la saison. Là. Non, peu importe. L'entraîneur qui serait à la barre de cette équipe-là en ce moment aurait de la difficulté à gagner des matchs.
Mais si il y a un avantage, Marco Rossi, à la liste d'espoir. Tu disais, Jeff, toi, ton opinion?
Je pense que les Canucks vont vouloir démolir sans aucune subtilité. Ça va peut-être aider à accélérer la reconstruction, tandis que du côté de New York, ils vont peut-être garder un brin d'espoir de vouloir être compétitif, de vouloir faire les deux choses en même temps, puis ça reste que c'est quand même difficile. Mais s'il y a un côté positif, Igor Shesterkin a 30 ans, Igor Shesterkin reste en santé, un très, très bon gardien de la Ligue nationale, tandis que Thatcher Demko est toujours blessé. Donc, il y a avantage du côté du filet pour les Rangers. mais on verra. Puis il va y avoir une pression à New York si les Islanders deviennent moindrement une bonne équipe. Les Islanders vont pouvoir reconstruire avec Matthew Schaefer, qui, on en parlait tantôt, est peut-être le plus sérieux candidat pour le trophée Calder.
T'as les Devils, une raide de train aussi.
Oh, et t'as les Devils qui, techniquement, les Devils ont quand même une bonne équipe sur papier, là, avec Jack Hughes, avec Luke Hughes, avec Nico Hischier. Les Rangers, ça reste que le noyau est assez vieillissant. Là. Trocheck, Zibanejad, Panarin qui ne reviendra pas. Donc, Vancouver n'aura pas peur d'arracher le toit puis de on reconstruit. Go, ça part maintenant.
Ça, je pense que les Rangers se retrouvent dans une genre de situation similaire à celle du Canadien. Ben, tu sais, le Canadien, au milieu des années 2010-2020, c'est ça, on patchait les trous, puis on se disait, on va faire les séries, on va faire une ronde, peut-être que Carey Price va se lever en série, puis on va se rendre en finale de la Coupe Stanley. On voulait garder l'espoir, on voulait garder l'engouement des partisans aussi dans un marché où il y a une grosse pression. Je pense que les Rangers sont dans une posture un peu plus difficile de ce point de vue-là avec le marché de New York. Puis ça va justement favoriser un peu les Canucks qui ont peut-être un peu plus de liberté à se lancer dans un grand processus de reconstruction. Ouais.
Je pense que les Canucks vont faire ça de manière plus intelligente. Intelligente, c'est peut-être pas le bon terme, mais dans le sens plus ordonné, plus comme les Canadiens ont fait justement, une vraie reconstruction de A à Z. Tandis que les Rangers... comment t'as dit?
Calculer. Une reconstruction qui sera plus calculée.
Merci, j'ai l'air beaucoup plus intelligent d'utiliser le mot calculer que d'avoir utilisé ce que j'avais fait. Hey les gars, merci d'avoir été avec moi sur le balado aujourd'hui. JF, on te laisse courir, tu t'en vas à l'entraînement des Canadiens. Guillaume, on peut lire, t'as parlé hier les espoirs de la LHGMQ qui est en visite du côté du Sandbell. T'as parlé avec quelques-uns, deux autres, donc on va pouvoir parler de tout ça. Sinon, avez-vous quelque chose qui s'en vient là, pour nos lecteurs qui vont nous écouter dans les prochains jours?
Préparation pour les Jeux olympiques aussi. Milano Cortina, ça reste... disons qu'on s'approche. Guillaume a parlé avec Xavier Villeneuve. Bon papier hier avec Lane Hudson, qui était... On avait deux géants dans le vestiaire du CH. Villeneuve et Lane Hudson.
J'ai bien aimé mon titre de rencontre au sommet.
Au sommet, oui.
Entre avec, les deux.
10 pieds les deux ensemble.
Sommet à 5 et 10.
Ouais, mais des mains à
mais des fois, les petits défenseurs sont capables de jouer au hockey. Lane Hudson connaît une saison assez formidable. Merci.
C'est incroyable. On voulait en parler aujourd'hui, on n'a même pas eu le temps. Donc,
on vient de le
faire. C'est tout ça. On va se garder ça pour la semaine prochaine. De toute façon, on n'est pas à un exploit près de la part d'Hudson. On le voit à tous les matchs. Les gars, merci beaucoup d'avoir été sur le balado aujourd'hui. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se reparle très bientôt.